Ça fait 2h47. Pensez-vous arranger ça bientôt?
Payer et endurer. Ça fait une semaine qu'ils annoncent ça. Vous pouvez pas prévenir.
Hydro, vous êtes en train d'oublier l'ouest de l'île de Montréal. Où êtes-vous? T'étais où?
J'étais au travail, je vous le confirme.
Bonjour, ici Francis Labbé. Bienvenue à cet autre épisode de Votre tweet est important pour nous, la série balado où on aborde les sujets qui vous font jaser dans les médias sociaux. Et autour de la table, les gens qui vous répondent, Gabriel Leblanc.
Salut!
Pierre-Alexandre Buisson.
Bonjour.
Et Jonathan Côté.
Allô.
À la table, vous voyez aussi notre invité, Jérémy Christian. Bonjour.
Bonjour.
Jérémy, vous êtes chef de corps au Centre de coordination du réseau de distribution, qu'on appelle le CCRD, c'est bien ça?
Exactement.
Votre travail consiste en quoi exactement?
Bien, le CCRD, là, entre autres, on exerce dans trois sphères différentes. Donc, on s'occupe de la gestion au quotidien des activités de distribution. Donc, on fait une vigie sur la météo, une vigie sur le réseau, puis on gère, on fait la gestion de plusieurs événements sporadiques qui peuvent arriver sur le réseau, comme des électrisations, gestion des clients priorité 1. On exerce dans une deuxième sphère aussi, qui est la gestion des événements hors Québec. Puis on a aussi le volet de la gestion des mesures d'urgence, comme ouais. Entre autres, le verglas, nous, on se trouve à être le centre de coordination au niveau provincial. On travaille en collaboration avec les différents centres, vraiment en région.
Donc, vous avez les yeux sur les tempêtes qui se produisent ici et ailleurs.
Exactement. Là, on regarde là, tout ce qui se passe là, aussi à travers l'Amérique du Nord, là, si on peut venir prêter main forte, sans vraiment, bien, sans nuire à nos activités aussi là, au Québec. Là. Donc, on priorise nos clients, mais si vraiment il y a un enjeu et qu'il faut qu'on aille aider, bien, on va prêter des équipes.
Jérémy, on aura différents commentaires issus du public à vous soumettre, mais juste avant, quelques questions en rafale. Semble-t-il que quand vous avez commencé votre travail, vous aviez l'habitude d'apporter un deuxième chandail? Il faisait chaud?
Dans le fond, au CCRD, là, c'est très varié. On reçoit un paquet de demandes, puis ça nous sort des fois un peu de notre zone de confort. Okay. Donc, effectivement, j'ai eu chaud à quelques reprises.
Est-ce qu'on est arrivé à l'étape où un seul chandail suffit pour un quart de travail?
J'en garde un dans mon tiroir au cas où.
C'est l'expérience qui parle.
Nous avons besoin d'un deuxième pour aujourd'hui ou c'est correct pour l'instant?
C'est pour ça que j'ai mis un chandail et une chemise. J'ai déjà mis deux épaisseurs.
Mais, des informateurs nous ont aussi dit que vous êtes amateur de biscuits, notamment quand il y a des pannes. C'est bien ça?
Exact. Bien, je dirais au quotidien. Là. Ça fait partie dans les tâches de gestion au quotidien.
Ben justement, on en a quelques-uns. Merci beaucoup. Pour vous mettre à l'aise, Jérémy. On va maintenant vous soumettre quelques commentaires qu'on a reçus et je vais laisser Pierre-Alexandre commencer cette ronde-là.
Oui, bien, puisque la thématique, c'est le verglas qu'on a tous subi en avril 2023, j'ai une première question qui va habilement briser la glace, je pense. On a une Stéphanie qui nous dit « Ça fait 2h47. Pensez-vous arranger ça bientôt? »
2h47 quand
même. C'est quand même assez précis, mais là, j'ai pas le cas de Stéphanie particulièrement. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre du délai de rétablissement, mais il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, là, le rétablissement. En premier, là, quand on est en mesure d'urgence, il y a des milliers de clients en panne, c'est sûr qu'on va traiter les 9-1. Tout ce qui est un danger pour la vie humaine, c'est ça qu'on va traiter en priorité. Ensuite, les opérateurs là, dans les centres d'exploitation à travers la province s'occupent de faire du rétablissement à distance, donc via les appareils télécommandés, pour rétablir le plus de clients possible sans même qu'une équipe se déplace. Ensuite de ça, chez Hydro-Québec, on utilise les coefficients. Donc, les coefficients, c'est le système...
Ça va te prendre un deuxième chandail.
Là, j'ai un blanc. J'ai toujours un blanc. C'est le système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est en fonction de la nature des activités du client, bien, ça lui donne une priorité. Donc on s'entend qu'un hôpital va être traité comme la priorité 1, puis à la fin de la chaîne, c'est le client résidentiel, commercial, résidentiel, à la fin de la chaîne.
Les bars, c'est-tu là-dedans?
Les bars, non, les tout SAQ, dépend. Si non. C'est la Saint-Jean, okay. On regarde ce qu'on peut faire. Mais sinon, non, c'est pas dans les priorités.
Bon, désolé tout le monde, ceux qui nous posaient la question.
Mais dans le fond, c'est une classification qui n'est pas propre à Hydro-Québec. Là. C'est une classification qui est...
De l'Amérique du Nord, là, vraiment, là, c'est toutes les industries en Amérique du Nord qui utilisent ces quotients-là.
Donc... Puis les CHSLD, ils seraient où à ce niveau-là? Parce que ça a été, pendant le verglas, des questions qu'on se faisait beaucoup poser.
Bien, sans rentrer dans la cote de priorisation, il va se trouver là, dans le chemin, dans tout ce qui est critique.
Okay.
Donc, le premier, c'est les urgences, les hôpitaux. Deuxième, stratégique. On n'y pense pas des fois, mais les tours, les antennes de communication. Oui. Mais il y en a qui sont stratégiques, que les services incendie, les services d'urgence utilisent. Donc, si la tour, désolé du mot, là, tombe, mais à ce moment-là, il n'y aura plus de communication.
Donc, tu me dis que même à l'intérieur des tours de télécommunication, il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres.
Oui, exact. Okay. Parce qu'il y en a qui ont de la redondance. Il y a certaines tours qui se trouvent à avoir de la redondance. Donc, à ce moment-là, elles vont être cotées plus bas dans la priorité de rétablissement. Donc, c'est vraiment les stratégiques. Okay. Donc, ensuite de ça, on s'occupe tout ce qui est critique. Donc, CHSLD va se trouver là. Puis, après, c'est clients commerciaux, résidentiels. Donc, le commentaire de Stéphanie, le 2h47, c'est qu'on va avoir passé à travers tout ce parcours-là, puis on se rend à la fin. Puis à la fin, comment qu'on détermine qu'est-ce qui est prioritaire? Bien, c'est en fonction du nombre de clients puis de la durée. Donc, si Stéphanie, ça faisait 2h47, mais qu'il y avait un client qui ça faisait 24 heures, bien, ça se peut qu'on ait priorisé le client de 24 heures avant le 2h47.
Oui,
donc, on s'excuse pour Stéphanie.
Gabriel, un commentaire aussi pour Jérémy.
Oui, bien là, dans le fond, tu nous expliques la classification. Il y a quand même des gens qui se sentent toujours oubliés par le rétablissement. Puis pendant le verglas, en avril, on a beaucoup vu que le West Island se sentait négligé. D'ailleurs, il y a Marie-Christine qui nous écrit « Hydro, vous êtes en train d'oublier l'ouest de l'île de Montréal. Où êtes-vous? » T'étais où?
J'étais au travail. J'étais au travail, je vous le confirme. Puis on a oublié personne. Je vous rassure, l'ouest de l'île, tout le monde est rétabli aujourd'hui, là, suite au verglas. Tout est terminé.
Enfin.
Exact, enfin. Mais on ne se le cachera pas, là, l'ouest de l'île, c'est un milieu avec beaucoup de végétation. Là, je pense que c'est connu. Là. Puis le réseau est quand même assez vaste dans l'ouest de l'île, du réseau aérien. Le réseau de l'Ouest, là, il y a beaucoup de tronçons principaux puis de dérivations. Pour faire une analogie avec le système routier, là, c'est comme si c'était une autoroute. Les trois fils qui se trouvent en haut du poteau, c'est une autoroute. Puis les sorties, c'est quand il y a un fil en arrière de la maison qui passe, là, un fil moyenne tension, monophasé qu'on appelle. Mm-hmm. Mais ça, c'est comme une sortie d'autoroute. Donc, quand on fait du rétablissement, on se concentre au début sur le tronçon principal, ensuite sur les dérivations, sur les fameuses sorties d'autoroute. Puis là, dans l'ouest de l'île, ce qui s'est passé avec le verglas, c'est des gros arbres. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de routes bloquées, des arbres sur des voitures. Donc, des fois, là, ça pouvait prendre une journée pour se rendre sur le lieu d'intervention. Puis c'est pour ça qu'on a fait aussi un message là, sur les réseaux sociaux pour dire si vous pouvez déplacer...
Autres,
c'est exact, c'est vous autres qui avez fait le message.
Mais c'est toi qui nous a demandé ça.
Exactement. C'est si vous pouvez déplacer vos véhicules pour faciliter l'accès aux équipes, mais c'est important parce que ça va nous permettre de rétablir le courant plus facilement. Bien. Puis aussi, on essaye de faire attention aux installations des clients aussi. On n'est pas là pour tout casser, donc on va faire attention. Donc, ça
moi, j'avais lu sur les réseaux sociaux, justement, source vraiment fiable habituellement, que c'était pas priorisé en fonction de la langue que les clients parlaient. C'est pas vrai, ça?
Non.
Parce qu'il y a quelqu'un, quand même, qui nous avait écrit « J'ai changé la langue de mon profil sur mon espace client pour le français et, comme par hasard, le courant est revenu. » Fait que ça, c'est...
En tout cas, je suppose au courant, je participe pas à ça.
Je pense que c'est Léa Strelitzky qui avait publié ça sur Twitter, effectivement. Mais c'était, en tout cas, tu nous assures qu'on considère tout le monde également en fonction des priorités.
Exact. Puis je veux rajouter aussi un petit point, là, c'est que au CCRD, là, au Centre de coordination de réseau de distribution, mais on est un petit peu le gardien du rétablissement. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas un secteur ou un territoire qui soit rétabli avant un autre. Donc, on va s'assurer que Montréal, puis exemple la Montérégie, bien, le délai, le retour se fasse pas mal dans les mêmes heures. On ne veut pas que la Montérégie, ça prenne deux jours de moins que Montréal. Donc, c'est là qu'on va répartir les équipes pour s'assurer justement qu'il y ait un rétablissement égal, équitable à travers la province.
Donc, avant de déplacer des équipes d'une région à l'autre pour dire « il y a beaucoup de panne à Montréal », on s'assure qu'on en laisse quand même assez dans les autres régions pour que tout le monde puisse retrouver le service à peu près en même temps, ou du moins dans un ordre de grandeur équivalent.
Bien. Dans le fond, si vous voulez que je parle de la mobilisation, je peux parler de la mobilisation, là, comment
on
ça fonctionne.
On veut que tu parles de mobilisation.
Oui, OK, parfait. un événement, dans le fond, là, côté mobilisation. Donc, le verglas, c'est un des pires événements qu'on peut avoir parce que Il y a plein de facteurs, là. C'est pas le versus le derecho, là. Je vais prendre le derecho du mois de mai l'année dernière.
On n'a pas eu de fun non plus, là.
Non, derecho, exact.
Juste pour rappeler aux gens, c'est qu'il y avait eu bien de vent très, très violent dans une courte période de temps. Bam, ça pète tout.
Exactement.
Ouais. C'est vraiment un bon résumé, ça. Ouais.
C'est exactement ça. Ouais. Ça arrache tout. Voilà. Le verglas, c'est plus malin. Ouais. C'est l'accumulation qui va se faire sur la végétation qui, là, est fragilisée, puis là, casse, puis tombe sur nos installations.
Juste pour ajouter là-dessus, je pense que ce qui a été beaucoup traître, c'est qu'il y a eu la grosse tempête de verglas. Il s'est mis à faire super chaud le lendemain. Fait que le jour du verglas, les gens se promenaient. Je pense qu'on avait un petit peu plus la faveur du public parce qu'ils comprenaient. Tu te promenais dans les parcs, t'entendais ça crépiter. Le lendemain, il faisait full beau, full soleil. C'était l'été. Fait que les gens, je pense qu'ils faisaient plus
de lien.
Comme
c'est fini, pourquoi il y a des pannes, tu sais, ouais.
Mais avant de commencer à déplacer des équipes, bien, on va attendre que ça passe. Que ça finisse pour savoir c'est quel secteur va être le plus touché. Et ensuite, on va déplacer des équipes. Donc là, le verglas, tout le monde était mobilisé. C'est arrivé un mercredi, donc tous nos effectifs à pied d'œuvre, les monteurs d'Hydro-Québec étaient déjà mobilisés cette journée-là. Les entrepreneurs à contrat aussi étaient mobilisés. Puis là, ensuite, on rentre dans une séquence aussi là, d'équipes externes à Hydro-Québec. Donc, on fait appel à l'AREC, donc l'Association des redistributeurs électriques au Québec, donc comme Hydro-Sherbrooke.
Attends, vous avez fait appel à de l'aide de l'extérieur parce que sur Twitter, on a un Eddie qui nous disait « Pourquoi vous avez refusé l'aide des autres provinces? Merci. »
OK. Bien, je tiens à dire à Eddie que non, on a demandé de l'aide là, à d'autres distributeurs ou d'autres entreprises externes à Hydro-Québec. On a demandé de l'aide à l'AREC. Donc, à Hydro, mettons, Hydro-Sherbrooke, il faut comprendre qu'eux sont aussi dans la même situation que nous, donc ils ne sont pas en mesure de nous prêter des équipes. Puis ensuite de ça, aussi, on est en relation avec des entreprises externes. On communique avec eux, puis eux nous fournissent des équipes. Mais là, il y a je dirais pas le mot enjeu, là, mais il y a une question de logistique en arrière. C'est que quand on prend des équipes externes à Hydro-Québec, bien, il faut les accompagner. D'un responsable des travaux.
On peut pas les lâcher lus dans la nature de même. Là.
Exactement.
Aller réparer.
Il faut qu'on s'assure qu'ils fassent la bonne chose puis qu'ils mettent pas leur vie en danger. Donc, ça prend un responsable des travaux qui va être avec eux. Donc, j'ai pas le chiffre là, au verglas combien d'équipes on avait là, externes, mais on en avait des centaines. Puis toutes ces équipes-là étaient accompagnées d'un responsable des travaux.
S'ils arrivent de l'extérieur de la province, est-ce qu'il peut y avoir un enjeu de langage?
Bien, on s'assure, oui, il y a des équipes là, anglophones, puis on s'assure que le contremaître qui est associé à l'équipe soit capable de jouer le rôle de traducteur.
D'interprète, oui.
D'interprète, c'est ça, exactement.
Mais je pense aussi qu'au niveau des consignes de comment travailler sur le réseau, lorsqu'ils viennent de l'extérieur du Québec, des fois, il y a des règles qui peuvent différer un peu, donc il faut les accueillir, leur expliquer toutes ces choses-là. Ça rajoute du temps, j'imagine, de travail pour nous alors qu'on est en période de crise.
Là. Exactement. Il faut leur faire une rencontre de santé-sécurité, donc on s'assure de leur expliquer comment ça fonctionne, le réseau d'Hydro-Québec, puis leur donner les consignes, là.
Parce que dans le fond, vous êtes toujours à chercher le point parfait d'efficacité, là.
Exact, parce que c'est pas parce qu'on va avoir beaucoup d'équipes que ça va aller plus vite. C'est pas parce qu'il va y avoir 15 équipes sur remplacer un poteau que ça va aller plus vite. On va juste se piler ses pieds.
C'est comme si on envoie 100 personnes pour changer une ampoule, ça va pas aller plus vite.
Exactement, donc c'est de trouver le bon équilibre.
Avant de passer au segment de Gabriel, est-ce que tu avais un commentaire à soumettre, Jonathan, à notre invité?
J'en ai plein. Lynn qui nous dit... Payer et endurer. Ça fait une semaine qu'ils annoncent ça. Vous pouvez pas prévenir. Donc là, dans le fond, elle dit, nous autres, on avait vu venir. Hein? On suit la météo, on est en vigie. On voyait que le verglas arrivait. Pourquoi on n'a rien fait pour empêcher ces pannes-là dans la semaine qu'il y avait avant? On voit les choses venir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, mettons, une semaine à l'avance, sachant que le verglas va arriver?
C'est dur là, de se préparer en amont. On ne sait pas où ça va tomber exactement. Donc... Ça pourrait tomber comme le verglas. Au début, on le voyait plus localisé dans les Laurentides, l'Outaouais, plus au nord de la province. Finalement, c'est Montréal. Donc, si on avait pris action avant puis qu'on avait mobilisé toutes nos équipes dans les Laurentides puis que ça tombe à Montréal...
On aurait été mal pris, là.
Exact. Il faut faire venir nos équipes. Donc, c'est dur de se préparer en amont. Malheureusement, au CCRD, on cherche la boule de cristal, mais on ne l'a pas trouvée. pour prévenir les événements, justement. Là,
Nous, on a déjà été contactés par des chamans africains qui ont peut-être une boule de cristal pour vous via les médias sociaux. Il nous a laissé son WhatsApp.
On a encore les coordonnées, si jamais.
OK, mais ça pourrait nous intéresser pour la météo. Là. Oui.
Ils peuvent même te faire un prêt, si tu veux.
Ah ouais, OK, bon, mais je vais le prendre en note.
Jérémy, Gabriel a un quiz à nous soumettre. Oh.
On va voir si vous connaissez bien le verglas. En fait, je vais vous donner des chiffres. Vous allez me dire à quoi ça correspond. Par exemple, si je vous dis 50, on sait que c'est millions, donc c'est le coût des travaux de rétablissement. Si je vous dis 3, ben c'est gestionnaire de communauté en burn-out après l'événement. Donc, je vous soumets quelques chiffres. On va voir si vous êtes bon. 1,3 million.
C'est moi qui dois répondre.
Ah, c'est tout le monde.
Ah, moi, je sais.
Moi aussi.
C'est le nombre de clients qui ont été en panne. Au total.
Au total. Ouais. Excellent. Est-ce que c'est la réponse que tu avais?
Exactement.
C'est une très bonne nouvelle. 115 000.
Le nombre de pannes qu'on a eu en tout.
Voyons.
Je pense que
c'est les experts.
Attends un peu. Le nombre de kilomètres de lignes de distribution.
Non, dans le but que l'épisode ne dure pas 2 heures, c'est les heures travaillées par nos monteurs et monteuses de lignes. Ah, peut-être que celle-là, toi, tu vas le savoir. 440.
L'autoroute de Laval.
C'est le nom de Transfo qu'on a changé?
Exactement. Ah, félicitations. Tabarnouche.
Transfo pour transformateur, tout le monde, ceux qui ne savaient pas.
Oui, un autre 300. À date, Francis, tu as zéro réponse. Fait que... non,
le nombre de poteaux qu'on a changé.
Le nombre de poteaux remplacé. 170.
Ouais.
Oui, on m'informe que c'est le nombre d'entrevues accordées pendant l'événement.
Oui. Et certaines à la chandelle, soit dit en passant.
Puis certaines dans ses pattes, parce qu'on était installés au CCRD.
C'est vrai, on a envahi votre espace de travail. Ah ouais, okay.
Plusieurs points de presse tenus au CCRD.
Presque est terminé, donc c'est le moment pour toi d'avoir une rédemption. 50. Soit ton âge.
Le nombre de biscuits que Jérémy a mangé pendant le point de presse.
Kilomètres de fil électrique qu'on a dû installer pendant l'événement.
Bien, Jérémy, merci beaucoup d'abord pour votre travail intense lors des événements extrêmes qu'on connaît et pour votre présence ici ce matin.
Merci beaucoup.
Bien apprécié.
Merci de l'invitation.
Vous pouvez quitter avec les biscuits. Oui.
OK, parfait.
Nous recevons un deuxième invité dans le cadre de cet épisode, M. Pascal Caron. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Pascal, vous êtes monteur de ligne, chef monteur.
Chef monteur de ligne, oui.
Donc, au cœur de l'action.
Oui, ah oui, au cœur de l'action.
Et
secteur
puis,
de Blainville.
Une journée de travail dans un événement assez extrême, là, qu'est-ce que ça représente? Ça ressemble à quoi pour vous?
Bien, c'est bizarre parce que souvent, une journée comme si puisqu'on part du dernier verglas qu'on a eu, nous, ce matin-là, on ne savait pas l'ampleur. En rentrant au travail à 7 heures, là, on s'en rentre comme une journée ordinaire. Puis le verglas a commencé vers 11 heures midi. Moi, j'étais dans une région de Blainville, Fontainebleau. Puis quand ça a frappé, là, écoute, on a des armes majeures là, qui sont tombées sur le réseau. Là. Fait que toute la reconstruction de ça, juste la première panne, moi, mon équipe, on a été mobilisés là pendant 2 jours de temps. Fait que,
mais quand pour une panne. Vous êtes mobilisés là 2 jours, vous faites des heures vraiment plus longues, si on le sait. Il y en a aussi, de ce que je comprends, quand vous êtes appelé ailleurs sur le terrain, parfois vous passez plusieurs jours, vous ne retournez même pas à la maison. Là.
Effectivement, comme là, dans cet événement-là, vu que c'était à Blainville, dans mon secteur de travail normal, si on veut, je fais mon 16 heures dans 24, qu'est-ce qu'on appelle. On peut faire 16 heures maximum dans 24 heures.
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Fait qu'on a quand même 8 heures de repos, mais là, dans ce cas-ci, moi, je dormais chez nous à tous les soirs. On a des collègues qui viennent de la Gaspésie, de Québec, qui viennent nous aider, eux, dorment à l'hôtel. Il y a beaucoup de mobilisation. Je sais que vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Là.
Mais c'est pas ça veut dire qu'il faut loger ces gens-là aussi. Mettons que quand on se promène comme ça là, d'une région à l'autre, il faut leur trouver des places. Des fois, j'imagine que ça ne doit pas être évident quand on est en situation de panne majeure comme ça. Il y a des endroits où on aurait voulu les loger qui n'ont même pas de courant. Donc,
ça arrive. Des hôtels, ça s'est déjà vu. Des monteurs qui dorment dans des hôtels qui n'ont pas de courant. Mm. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est le genre de fait cocasse là, qui peut arriver.
C'est l'aventure un peu. Là.
C'est l'aventure, oui. Ça dépend toujours de la région. Hein. Quand c'est en région reculée, on s'entend, des hôtels, il n'y en a pas tant. Donc, juste pour faire dormir les gars, des fois, ils peuvent voyager 1 heure, 2 heures juste pour se rendre à l'hôtel pour pouvoir se reposer pour le lendemain. Fait que c'est pas si simple. C'est pas...
Pascal, est-ce que les gens vous félicitent, vous remercient, vous font des commentaires sur le terrain?
Oui. Ah oui, les gens sont reconnaissants. C'est sûr que c'est souvent, on ne se le cachera pas, la question première qu'on se fait poser, c'est quand ça va revenir. Hein?
C'est la même question première qu'on se fait poser aussi, je t'assure.
Ouais, puis des fois, on joue au jeu, moi, je vois les gens arriver, puis je leur dis le temps avant qu'ils me posent la question. Là, sont comme tout ça, un peu quand on peut. Là,
mais... Ah, ben vous, vous le savez.
Pas tout le temps, okay. Mais quand je le peux. Ouais. Okay. C'est quand on est déjà sur les lieux, puis on évalue approximativement le temps qui me reste, et je suis capable, je suis en mesure de dire
quand
aux clients,
quand
ouais,
tu as commencé ta
près.
Job.
Est-ce que ça vous arrive de vous faire offrir des biscuits? Parce que peut-être que ça pourrait rendre Jérémy jaloux.
Ah, des biscuits, du café, souvent. Oh, oui, mais...
Et de l'alcool, sûrement que vous refusez systématiquement.
Ça s'est déjà vu. Mais on refuse. Que voulez-vous?
C'est quoi la chose la plus bizarre que vous êtes fait offrir? Que tu peux nous raconter?
Quoi? Que je peux vous raconter? Honnêtement, il n'y a rien qui me montre comme ça, là, mais ouais, souvent, ça, c'est le fait cocasse d'en parler, l'alcool. Les gens pensent qu'on a le droit de boire. Si on se met à boire, c'est lieu de travail, ça ira pas bien.
Le réseau sera arrangé sur un
non,
temps.
Mais c'est ça, ça fait pas partie de nos mœurs. Puis, c'est un peu... C'est beaucoup des remerciements. Hein. Le monde y passe un coup de klaxon, un thumbs up... Et merci de votre travail. Fait que, sinon, c'est encourageant parce que, comme que j'osais avec Jean-Philippe en pré-entrevue, il me demandait, il dit, pourquoi vous faites ça? T'sais, au-delà, on s'entend, là, c'est des heures énumérées en sortant, qu'on ne se le cachera pas. C'est la raison peut-être aussi qui attire les gens, mais il faut aimer ça, il faut que tu aimes ça. Là.
Pascal, on a des commentaires à vous soumettre?
Bien, en fait, si je regarde ce que tu disais là, le fait que pendant les fériés, tout ça, les gens devaient travailler quand même, il y avait Lise qui nous disait « Merci pour votre travail, une pensée spéciale pour Julie et tous les autres qui se sont retrouvés loin de leur famille pendant ce congé de Pâques. Merci, merci. » Donc, y a-t-il une Julie dans ton équipe ou proche? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de monteuses de ligne quand même, mais il y en a. Ou sinon, dans les autres employés
de soutien
autour. Je connais pas de
Julie personnellement
autour.
Chez Hydro, là, à bien y passer comme
ça. En tout
ça,
cas, elle dit aussi tous les autres, fait que je considère que ça t'inclut là-dedans. Donc, merci de Lise.
Merci, Lise.
C'est un beau message de Lise, mais est-ce qu'il y a des moments aussi où les gens sont juste pas fins avec vous?
Ben, je sais pas. J'aimerais ça... vous donner un fait cocasse de ça. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Okay. C'est ça. Mais tu sais, les gens, je pense, en arrière des claviers, sont plus à l'aise
plus
de faire ça. Mais face à face...
Tu ne chicanes pas avec ton dentiste. T'sais. Il est là dans ta bouche. Tu ne chicanes pas avec le gars qui est en train de réparer ton courant.
Effectivement,
ce
n'est pas une bonne façon de se faire prioriser.
Me semble que non.
Ben, c'est ça. Je pense que les gens se gardent une petite gêne.
C'est une très bonne idée.
Ouais. On a souvent des gens de mauvaise humeur sur nos réseaux sociaux quand ils sont en panne, mais il y a quand même des gens qui le prennent avec le sourire. Dont notre ami Sébastien ici, qui nous disait « Est-ce que je vais pouvoir danser dans le noir sans musique? » Puis on lui avait répondu, nous, « Ce n'est certainement pas nous qui allons vous en empêcher. » Qu'est-ce qu'un monteur lui répondrait?
Ah, écoute, moi, souvent, qu'est-ce que je dis aux gens quand ils se demandent, quand on sait que ça ne sera pas long? Je tourne ça à la blague comme ça. Je dis, c'est une bonne soirée. Dans le fond, c'est une bonne occasion. Emmenez votre femme au restaurant, allez dormir à l'hôtel. On essaie de dédramatiser ça parce que les pannes, c'est du cas par cas.
Vous essayez, dans le fond, de créer un baby boom, finalement.
peut-être. Mais c'est ça. Moi, on tourne ça à l'humour. Puis quand on peut, c'est toujours la. Les gens, on voit la réceptivité qu'ils ont face à tout ça. Il y en a qui arrivent, sont plus. Intenses ou plus impatients. Mais
c'est mieux de le prendre avec philosophie parce que même si on est fâché, ça, on va pas être rebranché plus rapidement.
Non, puis des fois, c'est pas tout le temps des choses. C'est souvent des choses hors de notre contrôle. Oui, il y en a une partie, mais on est soumis, on est des entrepreneurs qui viennent travailler en conjointement avec nous autres, des élagueurs, ceux qui installent les protos. Souvent, une équipe qui installe les protos, au niveau proportion d'équipe monteur, il y en a beaucoup moins. Fait que moi, sur une panne, je peux avoir des délais, tu sais, attendre. Les gens ne comprennent pas tout qu'est-ce qu'il y a
en
robe,
ça, un peu. Que les gens nous disent, OK, on vous voit, vous faites rien. Mais il y a aussi des gens qui nous disent, on vous voit pas. Fait que là, on sait pas si vous faites quelque chose ou vous le faites pas. Mathieu nous a dit, où sont les camions d'Hydro-Québec? J'ai vu des dizaines des mondeurs, des réparateurs de toiture, des tonnes de policiers sur le radar, mais Hydro-Québec, de vrais ninjas. On voit bien où sont les priorités à Montréal. Faire du fric pour payer les grosses pensions des policiers retraités. Il y a une portion, bien sûr, qui nous concerne pas, mais okay. Êtes-vous des ninjas? Faites-vous exprès de vous cacher du public?
Ninja orange, pas vu ça souvent.
Je ne m'approprierais pas ce talent-là, mais tantôt, Jérémy a parlé de priorisation. Là, fait que souvent, c'est ça, c'est malheureux. Là, peut-être que cette personne-là qui a écrit ce commentaire-là se trouvait sur une portion de ligne un peu... en bas de la liste de priorités, tu sais.
Ou un peu plus loin dans le réseau, mais pas sur le réseau principal, mais une plus petite ligne au bout.
Au début, des événements climatiques comme ça, on va prioriser les gros spans, les tronçons principaux, les trois phases. On va pouvoir réalimenter dans une journée à deux gars. On s'amusait à compter ça, moi et mon collègue, lors du dernier PURS. Dans une journée de travail, on alimentait juste notre équipe à deux, entre 5 000 et 8 000 clients.
Mais attends, est-ce que vous faites un peu une espèce de challenge entre vous autres, comme, hey, nous autres, on en a rétabli tant aujourd'hui, vous autres, combien?
Non, pas tant, mais nous autres, on l'avait fait l'exercice pour le fun, juste dans le camion, juste dans notre équipe. Puis ça, c'est 5 à 8 000 les premières journées, mais les dernières journées, ça pouvait être 15, 16 clients pour le même nombre de travail. Fait que ça devient plus que on avance dans le temps, plus que c'est des portions de ligne.
Puis tu sais, comme tu l'expliques, là, vous travaillez qui est en amont sur le réseau. Fait qu'il y a aussi une portion de ça qui s'explique par le fait que t'as pas besoin d'être devant chez moi pour réalimenter ma maison. Là. Tu peux être assez loin, travailler sur le réseau, puis subitement, le courant va revenir. Avec joie et bonheur dans mon domicile, puis j'aurais jamais vu un camion d'hydro. Les ninjas oranges seront jamais passés proche de chez moi.
Je pourrais pas dire mieux. Des fois, je peux travailler à 5 km de chez toi, mais c'est pour alimenter la panne qui alimente ta maison, le circuit. Fait que c'est ça, on n'est pas toujours direct en avant de la maison.
Dans un autre épisode précédent, on avait quelqu'un qui nous demandait, quand il fait vraiment chaud, qu'est-ce que vous portez en dessous de votre chienne orange?
Souvent, pas grand-chose. Dans mon cas...
C'était la rumeur qui courait. En tout cas, on a parlé de commando, on a parlé de Bobette Léopard.
Commando, j'irais pas jusqu'à là, mais juste en boxeur, souvent, oui, des grosses canicules, là, ça peut se résumer à simplement ça. Ouais.
Bon, voilà, le mystère est résolu.
Ouais,
c'est réglé. Sur ces images colorées, Pierre-Alexandre, je pense qu'on voulait parler poésie un petit peu.
Ben oui! On remarque souvent que dans les commentaires qu'on reçoit sur Facebook, il y en a qui pourraient être des poèmes, carrément. Alors, j'en ai recensé quelques-uns.
On appelle la poésie involontaire.
Oui. La poésie est partout, dans le scintillement du soleil à travers nos fenêtres, dans notre soupir collectif, dans un sourire, dans un doux échange de points de vue. Elle est aussi à des endroits parfois inattendus, comme dans les commentaires de notre page Facebook. Monique, qui nous dit « Tu n'as qu'à aller vivre là, en Ukraine. C'est pas le paradis. Je te dis ça comme ça, moi. Tu vas t'ennuyer du Québec. » On a aussi Léo, qui nous dit « Une grosse partie du problème, ce sont les arbres. Beaucoup d'arbres ne sont pas en santé. On le voit à la TV. Beaucoup de branches cassées sont en partie pourries. » Sous une publication où on invitait les gens à faire attention aux fraudes et aux messages frauduleux. « En effet, attention, messages frauduleux. Je viens d'en recevoir un. J'ai bloqué et supprimé au plus vite. Faut-tu être sans scrupules pour profiter ainsi des gens? »
Non.
Et un petit dernier qui est court et sucré. Un Bruno qui nous dit « Travaux colossaux, je vous lève mon chapeau. »
Wow. Bravo! Merci, Bruno.
Donc, avant de conclure cet épisode, quelques commentaires. Pas nécessairement de la poésie, Mme Leblanc?
Non, mais quand même une question importante d'Émilie. Elle nous dit « Nous avons perdu le courant depuis mercredi soir. Ce matin, le courant est revenu, mais 5 minutes après, nous l'avons perdu. Tout le quartier est branché, mais nous ne sommes maintenant que 6 sur la rue à ne plus avoir le courant. Une composante du transformateur s'est brisée. J'ai bien l'impression qu'on va nous oublier. » Donc, ça, on sait, on n'oublie personne. J'aime qu'elle assume qu'une composante du transformateur s'est brisée. J'imagine que les clients ont souvent l'impression qu'ils voient des choses puis que c'est ça qui cause la panne. Mais la question vraiment qui m'intéresse là-dedans, c'est pourquoi une personne pourrait être rétablie et le courant pourrait ensuite, encore une fois, tomber. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces situations-là?
Il y a plusieurs scénarios possibles à ça. C'est que suite à une remise sous tension d'un réseau, d'une trois phases, comme on appelle, qu'on va rétablir plusieurs clients, peut-être que cette dame-là, c'est une portion de ligne, une dérivation, qui a une petite branche un peu sur son... qui alimente cette portion de réseau-là. Donc, en mettant le trois phases sous tension, la protection de sa ligne va opérer, comme on dit dans notre jargon. Fond, ouais. Fait que là, le fameux porte-fusée va ouvrir, qui va créer une nouvelle panne.
Fait que là, ça, c'est faux espoir pendant quelques secondes.
Oui, c'est ça. Puis des fois, ça peut être aussi simple que ça, la ligne qui l'alimente est bonne, mais que pour aller réparer une branche qui est cassée en surplomb, nous, pour protéger les travailleurs, on va quand même refaire une mise en tension de sa ligne pour aller dégager la branche sécuritaire pour les travailleurs.
Ça se peut aussi, je pense que ça, on a eu des cas de ça pendant le verglas, la reprise du courant, tout le monde avait laissé son chauffage allumé assez haut, tout ça, fait que là, ça crée une surcharge sur le réseau, puis là, il y a un mécanisme de protection.
Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, c'est plate, mais c'est le fil basse tension qu'on appelle, nous autres, qui fond. Le fil va simplement fondre.
Oui, à cause de la gaine.
Fait qu'à cause de la charge électrique trop grande d'un coup, si les maisons sont 2, 3, 4 jours sans courant, quand ça reprend tout en même temps, malheureusement, le réseau il est en basse tension, c'est trop demandé.
Fait que c'est pas des blagues, c'est ça, quand on dit aux gens de baisser leur courant, c'est pas pour le plaisir.
C'est qu'est-ce qui s'est passé beaucoup à Montréal dans le dernier Purse, le fil, qu'est-ce qu'on entendait? Moi, je suis plus dans... ça arrive nord à Blainville, mais qu'est-ce qui s'est passé que ça s'est étiré un petit peu plus à Montréal, c'est ça.
Donc,
c'est
le fil basse tension. Donc, les gens, lorsqu'il y a une panne prolongée comme ça, une panne majeure, lorsque l'électricité revient... On se garoche pas à tout allumer les appareils en même temps, le chauffage dans le tapis. On essaie de minimiser quand même au début la consommation pour éviter ce genre de choses.
Comme avec beaucoup de choses, il faut y aller doucement.
Okay, c'est voilà. Ça.
Avec modération.
Ouais. Puis, en fait, tu parlais aussi d'une des choses qui peut arriver, pourquoi l'électricité est repartie. Ça peut être un disjoncteur qui a réouvert avec une branche. Mais là, quelqu'un nous disait, David disait, la majorité de ma municipalité est branchée, mais on est 217 ménages qui n'en ont pas à cause de 3 disjoncteurs oubliés par les équipes de HQ. Alors, on en reparlera pour le bon travail. Donc, il y en a qui voient que le disjoncteur, par exemple, au bout de leur rue, il a l'air d'être ouvert. Et ils disent, bien là, vous aviez rien qu'à venir renclencher le disjoncteur 5 minutes après le début de la panne, j'aurais eu l'électricité. Pourquoi ça a pris 5 jours? Comment on explique ça?
C'est ça, c'est en entrevue comme ça autour d'une table, c'est pas aussi simple que ça à expliquer, parce que le fameux, genre, je connais pas la panne de notre auditeur, qu'est-ce qui fait part, mais la portion de réseau qui est en aval, qu'on dit après ce disjoncteur-là, peut-être qu'à ses yeux, lui, tout était beau, mais on ne sait pas, 2, 3, 4 kilomètres plus loin, il y a peut-être 3, 4 poteaux cassés, tu sais. Puis là, ben c'est ça, fait que là, ça va impliquer qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut réalimenter plus rapidement, plus facilement, plus vite. Puis on va se diriger par la suite là, à des travaux plus complexes.
Mais le disjoncteur, s'il ouvre d'habitude, c'est pas lui nécessairement la cause de la panne. Lui, c'est plus qu'il va ouvrir pour protéger le réseau parce qu'il y a d'autres choses sur le réseau, un arbre, quelque chose. Donc, avant de pouvoir refermer le disjoncteur, il faut qu'on aille travailler ailleurs sur le réseau d'habitude.
Bien, le disjoncteur va faire son travail. Il va détecter une faute. Il va faire 2 autres essais automatiques.
Ah!
Puis,
il essaye de se réenclencher.
Oui, d'une façon automatique. Puis, si la faute demeure, mais là, à troisième essai, il arrête.
La protection.
Ça prend tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui est déplacée sur les lieux pour aller s'assurer que tout est correct.
Donc, dans la majorité des cas,
il n'y a rien de substantiel.
C'est là que les gens voient dans l'application, puis sur le site, équipe en route, analyse des travaux requis.
Maintenant, Pascal, on va profiter de votre présence pour soumettre un commentaire issu du beau-frère. Donc, le beau-frère nous envoie un tweet et on soumet la question à tout le monde et puis on essaie de bricoler une réponse.
Il me semble qu'il tweete souvent, le beau-frère.
Oui, il a tendance à tweeter assez souvent, merci. Alors, voici ce que le beau-frère nous dit. Avec le monopole, on n'a pas le choix. Je suis sûr que s'il y avait d'autres compagnies qui faisaient de l'électricité, bien, il y en a qui s'arrangeraient pour que des pannes, bien, qu'il n'y en ait jamais. La compétition, ça rend tout le monde meilleur.
Alors... c'est drôle parce qu'historiquement, il y avait cette compétition-là et c'était vraiment pas meilleur. Donc, on inviterait le beau-frère à se renseigner un peu sur l'historique de la nationalisation. Ça, c'était ma petite partie de réponse.
C'était la parabole de Gab, mais qu'est-ce que tu dirais à ça?
Moi, je dirais au beau-frère qui est chanceux de payer son électricité le moins cher au Canada. Hein.
Là, pendant les pannes, est-ce que vous dites, bien là, dans le fond, on travaille pour un monopole, guys, fait qu'il n'y a pas vraiment besoin
pas
de
besoin
se presser pour réparer les pannes?
Non, bien, ça rentre pas. Moi, ma réalité, c'est ça. J'ai 2 bras, 2 jambes. On peut pas, tu sais, c'est une question de temps, tu sais, de mobilisation. On en a parlé un peu. C'est pas simple, les pannes, tu sais.
Donc, si
pour répondre
monopole,
à la question du beau-frère, tu sais, de 1, il paye pas cher, et de 2, s'il va ailleurs, ça sera pas plus vite, tu sais. Fait que souvent, les pannes ailleurs, même aux États-Unis, c'est nous autres qui y va, puis on voit qu'est-ce qui se passe autour. Puis les réalités sont les mêmes là, pour nos voisins aussi. Là.
Le genre de comparaison, c'est avec d'autres pays, d'autres lieux, d'autres États, peu importe. Moi, je trouve toujours ça cocasse parce qu'au Québec, on a tellement un gros couvert forestier. On a un très, très grand territoire. Et on a un climat qui est vraiment particulier aussi. Tu sais, des fois, les gens nous disent « OK, mais au Costa Rica, telle affaire ». Je comprends, là, mais la dernière tempête de verglas au Costa Rica, je pense que ça remonte à il y a très, très longtemps. Fait que la réalité est super différente. Fait que c'est pas tant une question de monopole qu'une question de... Le Québec, c'est un endroit très, très particulier.
Mais une chose, ouais.
Puis je pourrais rajouter peut-être quelque chose sur ce que tu viens de dire, c'est que le climat, il change aussi. Hein? Moi, ça, je suis à compléter ma 20e année à Hydro, là. Puis juste en 20 ans, là, on le voit la différence. T'sais, des pluies de mois de janvier, on voyait pas ça tant que ça avant, puis c'est fréquent à cette heure. Fait que tu sais, il y a quelque chose au niveau climatique qui se passe, la végétation... Si on fait de la prévention comme Hydro-Québec font déjà, c'est une chose, mais un arbre qui est centenaire à environ 30 mètres de la ligne décide de casser une journée, on peut pas rien faire avec ça.
Tu es en train de dire que le beau-frère devrait aller écouter l'épisode qu'on a fait avec un de tes collègues qui parle d'adaptation au changement climatique.
Un excellent épisode.
Ah, un autre excellent épisode.
On pourrait l'inviter à aller écouter
mais
ça.
Mais aussi, on parle de monopole. Là. On veut pas avoir comme quatre lignes électriques sur le bord de la rue. Là. Ça marche pas. Je sais pas s'il y en a vu qui ont vu, par exemple, en Asie, dans certaines villes, là, les espèces de fouillis de plein de fils concurrents. La distribution d'électricité, c'est considéré ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est normal qu'on veut avoir juste un fil électrique qui passe dans la rue. Tu ne veux pas avoir plein de concurrents qui vont avoir comme quatre poteaux en ligne avec leurs fils en genre de spaghetti. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis c'est comme ça dans probablement tous les endroits. Là. Tu vas avoir une entreprise qui va avoir les fils installés et c'est tout. T'sais.
Alors non aux spaghettis de fil, c'est ce qu'on dirait au beau-frère.
Non aux spaghettis, puis écoutez l'épisode sur les changements climatiques aussi.
Mais si on avait quatre ensembles de fils partout, les gens nous diraient enfoussé.
Donc on va répondre au beau-frère non à l'enfouissement de spaghettis. En résumé, Pascal, vous travaillez de longues heures lorsqu'il y a des événements météo extrêmes comme ceux qu'on a connus dernièrement. Lorsqu'il fait très chaud, pas beaucoup de choses sous le survêtement orange. Et maintenant, Pascal est un professionnel de la balado-diffusion.
Merci.
Merci aussi à Jérémy qui est venu nous voir un peu plus tôt dans cet épisode et puis surveiller la liste des sujets qui sont tout aussi intéressants.